Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode consacré à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on s'intéresse de nouveau aux moutons et à leur élevage, et plus précisément avec Romain Fati, on va voir comment ceux-ci ont accompagné de très près la conquête territoriale et coloniale du pays, mais aussi l'impact assez lourd que leur élevage a pu avoir sur l'environnement. Allez, c'est parti! Pour revenir à nos moutons, pardon pour ce mauvais jeu de mots, mais c'était difficile de ne pas tomber dedans. Je le disais en introduction, ce développement de l'industrie de la laine et de l'élevage de moutons en Australie, il a accompagné quasiment dès les premiers jours le mouvement de colonisation et de conquête territoriale de l'Australie par les Anglais. Et à l'image du pionnier de la laine en Australie, donc ce fameux capitaine John MacArthur qui a ramené des premiers moutons mérinos d'Afrique du Sud jusqu'à Parramatta, où il est devenu un propriétaire eh bien, très plein de succès. On peut citer aussi l'exemple de John Batman en Tasmanie, qui plus tard a fondé la ville de Melbourne, mais qui, on sait, a massacré beaucoup de gens en Tasmanie et a construit ensuite une immense fortune sur les terres récoltées sur lesquelles il a fait élever et se reproduire des moutons. Et c'est le point sur lequel je voulais en venir. Donc cette prospérité naissante de l'Australie liée à l'industrie de la laine, elle se fait aussi, comme tout le reste de la colonisation, sur le vol des terres aux aborigènes et leur massacre à très grande échelle.
Oui, complètement. Alors, comme dans toutes les histoires postcoloniales australiennes, dès qu'on gratte un peu, vous avez des légendes noires un peu partout, parce qu'effectivement, tout ça s'est fait sur le dos des populations qui étaient là avant, les premiers Australiens, qu'ils soient aborigènes ou du détroit de Torres. Et donc, là, vous avez mentionné deux noms importants, hein, John MacArthur et John Batman. Les premiers moutons, on l'a dit, ils arrivent en 1788 avec la première flotte. Comme on l'a dit, ça fonctionne pas très bien. John MacArthur réintroduit des mérinos à partir de 1797, hein, et c'est lui justement qui vend ses premières laines dont on a parlé et qui développe cette industrie. Et donc, ce monsieur, John MacArthur, effectivement, c'est un peu le héros de la laine en Australie, mais c'est aussi quelqu'un qui a très largement su corrompre, qui a mené ce qu'on appelle la rébellion du Rhum contre le gouverneur Bligh en Nouvelle-Galles du Sud. Enfin, c'est quelqu'un de pas très fréquentable en fait, pas très fréquentable parce qu'effectivement, il vole des terres. Alors, les terres lui sont octroyées par la couronne, mais ce sont les terres de quelqu'un, des aborigènes en l'occurrence. Et puis, il essaye de faire développer cette industrie de la laine en ayant des connexions et des liens avec des personnes qui ne sont pas non plus très fréquentables. John Batman, c'est encore pire. Hein. Lui, on sait très bien qu'il a fait partie de groupes qui chassaient, qui tuaient les aborigènes pour les exterminer, pour les chasser de leur terre en réalité, en Tasmanie. Tout ça, c'est documenté, c'est dans les archives, c'est pas un truc d'historien de gauche au cas où ça surprenne. Pas du tout. On a des traces, on a des documents, on a des archives, on a des témoignages. Les autorités coloniales ont organisé ces massacres. Et donc, vous allez me dire, mais quel est le lien avec les moutons? Mais le lien pour la Tasmanie, il est évident. Cette colonisation, au début, voilà, vous avez quelques pêcheurs, le phoque, les baleines, etc., qui s'installent là. Et puis, elle commence réellement à partir de 1802-1803, où il y a une réelle volonté de coloniser la Tasmanie, ne serait-ce que pour qu'elle ne tombe pas dans les mains des Français, hein, sait-on jamais, avec Napoléon, etc. Et donc cette colonisation se fait assez rapidement, le climat de la Tasmanie se prête bien à l'élevage de moutons. Simplement, pour élever des moutons, quand vous êtes dans des endroits où vous avez beaucoup de forêts primaires, vous avez besoin de faire des pâtures, des clairières. Donc, eh bien, vous coupez des arbres, vous déforestez autant comme autant. Et puis, bah, les aborigènes voient des moutons, il est bien normal qu'ils en profitent également. Et donc, il y a pas mal de vols de moutons. Alors, vous allez me dire, mais attendez, quand vous avez des troupeaux de 5, 10 000, 15 000, 20 000 moutons, est-ce que se faire voler 3 moutons tous les 15 jours, ça compte? Peut-être pas. Mais dans la tête des Britanniques de l'époque, la loi, c'est la loi, et elle est faite pour être respectée. Et à partir de ce moment-là, vous avez des tribus entières, des peuplements entiers qui sont chassés, des zones où on élève des moutons. Et comme les moutons, ça se reproduit très rapidement et que vos troupeaux augmentent, ben vous avancez dans les terres. C'est l'histoire l'entreprise la plus célèbre en Tasmanie qui s'appelle Van Diemen's Land Company, Et finalement, c'est une entreprise qui va finir par posséder, grosso modo, enfin j'exagère un peu, mais quasiment toute la Tasmanie. Et l'industrie principale de cette entreprise, eh bien, ce sont les moutons. Et donc, plus vous avez de moutons, plus vous avez besoin de terre, plus vous poussez les aborigènes. Et ça s'appelle les Black Walls en Tasmanie, en l'occurrence. Ça a été très bien documenté par tout un nombre d'historiens, Henry Reynolds, Nicholas Clemens, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle d'ailleurs The Black Walls, où on voit qu'en fait, à mesure que l'extension des fermes de moutons avance, les aborigènes sont de plus en plus poussés, poursuivis, tués, et puis finalement parqués, et ils disparaissent complètement de Tasmanie. Et donc le lien entre moutons et colonisation est extrêmement important, et pas seulement en Tasmanie, mais également sur l'Australie continentale, entre guillemets, ou alors là, il n'y a pas que le mouton, il y a effectivement aussi les troupeaux bovins
Oui.
également qui ont contribué à l'extension du pays et de sa prospérité économique, pardon, du point de vue blanc, si vous voulez. Mais à mesure que ces troupeaux avancent, c'était synonyme de mort, hein, pour les aborigènes.
Cette laine, on comprend donc qu'elle est un petit peu tachée de sang, même beaucoup. L'autre conséquence grave de l'introduction de cette espèce et de son élevage dans des quantités très importantes en Australie, c'est que, eh bien, bien sûr, je le rappelle, hein, l'Australie est le seul continent au monde sur lequel, à l'origine, il n'y a aucune espèce portant des sabots. Là, on a des moutons, plus tard, on aura des vaches, etc., et puis, bien sûr, des chevaux. Et ces animaux, qui ont aussi un grand appétit quand il s'agit des moutons, eh bien, vont causer des ravages énormes sur l'environnement, parce que ben, ils sont très gourmands. Mais aussi, comme vous le disiez, pour le cas de la Tasmanie, pour créer des pâturages, des clairières, il faut déforester à très grande échelle. Alors, je vais vous laisser développer sur l'impact écologique et environnemental de cet élevage d'ici peu, mais je voulais vous faire réagir sur un point particulier. Dans un livre dont on a déjà parlé sur ce podcast et dont vous avez par ailleurs eh bien, mis en doute la crédibilité sur un certain nombre de points, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il se trompait sur tout? Donc, le livre en question, c'est Dark Emu, qui a été écrit par Bruce Pascoe. Et dans ce livre, Bruce Pascoe explique que l'introduction des animaux à sabots, et plus particulièrement des moutons, eh bien, elle a considérablement accéléré la désertification de l'Australie, où, bon, on va être honnête, hein, ce n'était pas la forêt tropicale sur l'ensemble du continent. Mais enfin, il expliquait qu'avant l'arrivée des colons, il y avait quand même une part beaucoup plus importante du continent qui était, disons, vivable, qui n'était pas un simple désert, et que ces animaux à sabots, qui donc broutent beaucoup, qui par ailleurs ont des pieds bien plus durs que des animaux qui n'ont pas de sabots, ont durci la terre et qu'ils ont contribué donc à son assèchement en à peine quelques décennies. Est-ce que, selon vous, cette hypothèse, elle est crédible? Et qu'elle le soit ou pas, est-ce qu'après vous pouvez nous dire quelques mots sur l'impact écologique des moutons, sur l'Australie?
Alors, effectivement, Grégory, tout à fait, vous avez tout à fait raison là-dessus. Et Bruce Pascoe a raison, ça a été prouvé, démontré à la fois par les historiens, mais surtout par les scientifiques. Les moutons ont eu un impact catastrophique sur l'écologie australienne. Et pas que les moutons, en fait, tous les animaux à sabots, comme vous l'avez rappelé. On va redécoudre ensemble tout ça. Si vous voulez avoir une industrie lainière, et même pour la viande de mouton, vous avez besoin, un, de territoire. Donc, vous volez la terre des autres, on vient de le rappeler avec l'exemple de la Tasmanie. Deux, vous avez besoin d'herbes, de pâture, des clairières, donc déforestation. Donc là, impact direct. Trois, donc terre, forêt et les hommes. C'est-à-dire que vous rendez toute cohabitation impossible dans la mesure où les aborigènes utilisaient la nature telle qu'elle était et la faisaient fonctionner pour eux aussi, hein, je veux dire les co-buages, etc. Vous les chassez pour qu'il n'y ait pas de prélèvement de vos moutons, mais là où il y a les moutons, il y a un changement complet d'écosystème et d'écologie, parce que ça broute quasiment tout. Si bien que vous avez tout un tas d'espèces qui sont donc des plantes qui non seulement offrent une couverture à la terre, c'est très important qu'une terre soit couverte, parce que ça veut dire qu'elle s'assèche moins, et donc elle est plus productive, enfin productive de notre point de vue, mais disons que vous avez, elle va pouvoir nourrir à la fois des végétaux et des animaux qui s'en nourrissent également. Donc à partir du moment où vous changez la terre australienne en coupant des arbres, en changeant son aspect, en y mettant des moutons, c'est une catastrophe écologique en réalité. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc en Australie, on le sait aujourd'hui que beaucoup de ces sols ont été asséchés et ça a accéléré la désertification du continent avec les ovins, les bovins. Alors aujourd'hui, voilà, on est repassé à peu près 70 millions de moutons en Australie en donc 2025. Il y a encore 50 ans, il y en avait 170 millions. Aujourd'hui, il y a des politiques d'abattage des chameaux, par exemple, dans le nord du Queensland, parce qu'effectivement, ces sabots. Alors, il y a non seulement il y a l'aspect brouté désertification parce que vous asséchez les sols, parce que vous prenez ce qui les couvrait avant, ce qui fait que l'eau ne pénètre plus assez bien, elle ruisselle, donc les inondations, mais il y a aussi l'impact sur le tassement de la terre. Quand vous êtes un kangourou et que vous avez des coussinets, hein, la terre n'est pas aussi tassée que quand vous faites, je ne sais pas moi, 80, 100, 120 kilos et que vous avez des sabots. Et alors, d'autant plus quand vous en faites 400 ou 500 et que vous êtes un cheval ou une vache. Donc, Pascot a tout à fait raison là-dessus. C'est loin d'être le seul à le dire, hein. Mais l'impact, elle est sur le vivant humain, elle est sur le vivant de la flore et de la faune également. Donc, ça a radicalement altéré les landscapes, les paysages australiens. Le fait d'importer des moutons, mais aussi des bovins.
Et alors, vous le disiez, hein, le nombre de têtes de moutons en Australie a quand même pas mal diminué, même s'il reste important. Toujours est-il que l'Australie reste l'un des 10 pays dans le monde qui déforeste le plus par an. Déforestation causée en particulier pour les besoins de l'élevage, alors pas forcément de moutons, mais le plus grand nombre d'arbres coupés est coupé par des éleveurs qui ont besoin d'étendre leur pâturage, et on les comprend puisque eh bien, le reste des terres qu'ils possèdent sont de plus en plus asséchées. Bref.
Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là, hein, parce que l'assèchement des terres, il se fait à cause de l'élevage. Donc il faut l'objectif, hein, et pas qu'en Australie, aussi en Amérique du Sud, l'objectif c'est de trouver un mode d'exploitation qui fait que vous pouvez continuer à avoir ces industries, à avoir ces productions de laine ou de viande, tout en conservant de la biodiversité qui est essentielle au maintien à long terme de votre industrie. Donc déforester, ça ne peut durer qu'un moment parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus de forêt, on n'avait plus rien. Donc, il va falloir trouver un autre mode, repenser comment on s'organise. Et en Australie, vous avez des zones protégées. Alors, effectivement, il y a encore beaucoup de déforestation, surtout dans le Queensland, et c'est catastrophique. Mais vous avez de plus en plus de fermes également, sur des espaces plus réduits, qui essayent de clore certaines parties. Vous savez, quand vous avez une ferme qui fait 5000 hectares, s'il y en a 100 qui ne sont pas cultivés, c'est pas très important. Et donc, vous recréez de la biodiversité là où vous pouvez, parce qu'en fait, comme on l'a dit, les moutons changent tout. Les arbres disparaissent, les shrubs, les petits buissons disparaissent aussi. Vous n'avez qu'un peu d'herbe et de mauvaises herbes. Et tout l'écosystème qu'il y avait autour, qui était essentiel au maintien d'une terre riche, disparaît. Donc, vous êtes obligé de repenser ce système. Alors, on est encore loin d'une production vertueuse, mais on a beaucoup plus de connaissances scientifiques qu'on en avait avant, et on se rend compte des dégâts majeurs que ça peut créer de désertifier toute une plaine qui va être après sujette aux inondations, par exemple, ou au feu, ou à la sécheresse.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie de ce long épisode consacré à l'histoire des moutons en Australie. Dans ce dernier épisode, on s'intéressera eh bien, à l'époque contemporaine, aux défis que rencontre actuellement l'industrie de la laine, notamment problèmes liés à des considérations éthiques que se posent un nombre grandissant des clients de la laine australienne. À très bientôt donc pour le prochain et dernier épisode sur l'histoire des moutons en Australie.